Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme se réunit une fois tous les trois ans. C'est au tour de Lyon d'accueillir aujourd'hui cette réunion. Le but, récolter un maximum d'argent. Comment est-il ensuite dépensé ? Reportage en Côte d'Ivoire.
Les Tunisiens n'ont pas tous décidé pour qui voter dimanche au second tour de l'élection présidentielle. L'un des candidats est toujours en prison. La correspondance de Maureen Mercier.
Nous reviendrons sur l'audition du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, hier devant la commission des lois de l'Assemblée après la attaque meurtrière à la préfecture de police de Paris. Puis Anne-Laure Jumet nous expliquera pourquoi la Cour des comptes préconise la mise en place d'un jour de carence dans le privé en cas d'arrêt maladie. Après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Margot, combien coûte l'aide médicale d'État ? On posera la question à Florence Jusot, elle est économiste de la santé.
14 milliards de dollars, c'est le montant que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme espère récolter, soit 2 milliards de plus qu'il y a 3 ans. Un objectif affiché par Emmanuel Macron pendant la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Les contributeurs se réuniront aujourd'hui et demain à Lyon, mais le résultat n'est pas garanti, Bertrand Galichet.
Si l'objectif de 14 milliards de dollars pour les trois prochaines années paraît ambitieux, c'est d'abord à cause d'une certaine fatigue des donateurs qui ont le sentiment d'avoir beaucoup contribué à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Autre raison, la concurrence des appels aux dons pour d'autres grandes causes comme le climat ou l'environnement. Le Fonds mondial estime pourtant que cette hausse d'environ 15% est nécessaire pour éradiquer les épidémies d'ici 10 ans, perspective fixée par les Nations Unies. La France, qui accueille cette conférence de reconstitution des ressources, a beaucoup travaillé en amont pour inciter aux dons. Les États-Unis restent les plus généreux, suivis de la Grande-Bretagne. C'est Emmanuel Macron qui dévoilera lui-même le montant de la contribution française. Bill Gates, le premier des contributeurs privés, sera présent à Lyon avec le chanteur Bono, cofondateur de l'association RED. Les États d'Afrique, majoritairement bénéficiaires de ce programme, sont censés participer à hauteur de 15%. Une dizaine de présidents africains sont attendus à Lyon.
Alors à quoi sert l'argent du Fonds mondial ? Exemple, en Côte d'Ivoire, où chaque année 12 millions d'euros sont dépensés pour proposer des traitements gratuits aux malades, Solène Lehen s'est rendue à Abidjan.
Sidiki Diarra est encore faible, mais il est en voie de guérison. Il entame son 5e mois de traitement contre la tuberculose, des médicaments qu'il n'a pas payés.
On ne paye rien, c'est gratuit. Je n'ai aucune idée du prix.
Aucune idée du prix, même chose pour Bernard Kanga à propos des antirétroviraux, médicaments contre le VIH. Pourtant, il en distribue tous les jours, il est pharmacien.
Cette boîte-là, le patient prend un comprimé au coucher, mais je ne sais même pas combien ça coûte.
Vous ne savez pas combien ça coûte ?
Non.
La réponse, c'est Ange-Désiré Yapi, directeur général de la pharmacie nationale qui la donne.
Au début, les traitements étaient à peu près 450 euros mensuellement. Une très bonne partie de la population ne peut pas se le permettre. Donc ça a quand même permis d'améliorer la survie des populations.
En effet, en Côte d'Ivoire, la mortalité a chuté de moitié pour le sida entre 2007 et 2017, de 16% pour la tuberculose entre 2010 et 2017, et même pour le paludisme de 73% sur la même période. C'est le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui paye en très grande partie ces médicaments. Il finance également d'autres programmes plus spécifiques, gérés notamment par un organisme public français, Expertise France, programmes de prévention ou encore de réduction des risques auprès des populations vulnérables.
Reportage de Solène Lehen. C'est le début d'une guerre ouverte à Washington. La Maison-Blanche refuse de coopérer à l'enquête en cours qui vise le président américain. Donald Trump risque une procédure de destitution. Ne pas collaborer, c'est une tentative illégale de dissimuler les faits, estime la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi. Vous essayez de priver les Américains du président qu'ils ont librement choisi, lui avait écrit auparavant Donald Trump. Les États-Unis qui continuent de faire pression sur la Chine. Washington dénonce une campagne de répression contre les musulmans ouïghours dans le nord-ouest du pays. Camille Magnard nous en parlera dans sa revue de presse internationale à 7h35. Incarcéré depuis le 23 août dernier, l'homme d'affaires tunisien Nabil Karoui demande le report du second tour de l'élection présidentielle pour pouvoir faire campagne. Le candidat est soupçonné de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Son rival est Kais Saied, un enseignant très conservateur, un islamiste selon ses opposants. Le scrutin est prévu dimanche, mais les électeurs n'ont pas tous fait leur choix, Maureen Mercier.
À la Marsa, dans la banlieue chic de la capitale, c'est le choc. La plupart de ces hommes qui débattent autour d'un café ne comptaient pas aller voter, convaincus ni par Nabil Karoui ni par Kais Saied. Mais depuis la victoire des islamistes d'Ennahda aux législatives, elles se sont déroulées entre les deux tours de l'élection présidentielle, on s'interroge.
Les deux vont nous mener vers l'inconnu.
Les deux n'ont aucun programme. Moi, je peux aller voter au monsieur qui vend des casse-croûtes, là-bas aussi, je vais dire, pourquoi pas lui, président de la République.
Bon, ceci dit, il y a un vrai dilemme. Vous avez quelqu'un qui est en tôle parce que c'est un mafieux, et vous avez quelqu'un qui se dit droit dans les bottes, mais en fait, il y a des gens comme Nada et tous les partis fascistes s'associent à lui et qui ne pourra pas ignorer. S'il passe, il y aura, je pense, une guerre civile, ça finira très mal.
Tout sauf Kais Saied, l'austère constitutionnaliste. Pour bloquer les islamistes, ce retraité votera Nabil Karoui, le patron de télévision en prison pour soupçon de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Autre terrasse, toujours dans la banlieue aisée de la capitale, ces femmes ne se donnent plus le temps de tergiverser. Lunettes teintées, des yeux très maquillés, c'est décidé. Toutes voteront pour Nabil Karoui.
Je me réveille tous les matins avec la peur au ventre. En tant que femme, on pourrait perdre notre liberté. Nous n'avons de toute façon pas le choix. Nous allons devoir voter le vote utile.
Il est soupçonné de fraude fiscale, de blanchiment d'argent.
Franchement, je m'en fous complètement.
Même s'il ne paye pas ses impôts, je vais le soutenir pourvu qu'il fasse barrage aux islamistes.
Au premier tour de la présidentielle, les femmes ont peu voté. Elles l'affirment dimanche pour le deuxième tour et pour défendre leurs droits, elles se mobiliseront.
Maureen Mercier à Tunis.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Christophe Castaner a passé sa journée hier à tenter de se défendre.
Après une audition par la délégation parlementaire au renseignement, le ministre de l'Intérieur était entendu hier après-midi par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il est vivement critiqué depuis l'attaque de la préfecture de police de Paris jeudi dernier. 4 fonctionnaires ont été tués. L'assaillant, qui avait montré quelques signes de radicalisation sans être formellement signalé, a été abattu. Christophe Castaner était donc sommé de s'expliquer, Rosalie Lafarge.
Les critiques s'enchaînent, le ministre de l'Intérieur y répond.
Ne caricaturez pas dans vos propos le fait que rien n'aurait été fait. La vérité d'aujourd'hui sur ces signaux et sur le risque n'est pas la même que celle de 2015.
Christophe Castaner a à l'offensive devant les députés de la commission des lois. Certains l'accusent d'avoir parlé bien trop vite après les faits. Le ministre avait alors assuré que l'assaillant n'avait jamais présenté de difficultés comportementales. Éric Ciotti, pour Les Républicains, s'en souvient.
Vos propos hâtifs ont altéré la crédibilité de votre fonction. Donc je voudrais vous demander personnellement si vous regrettez d'avoir parlé si vite.
Mais le premier flic de France assume ses mots.
Qu'ai-je dit ? La vérité. La vérité des éléments qui étaient connus au moment où je m'exprime. Alors je vous le dis, monsieur Ciotti, le problème n'est pas ce que j'ai dit. Le problème est, pour moi, de savoir comment l'auteur de l'acte est passé au travers des mailles du filet.
Christophe Castaner n'hésite pas à parler de nouveau d'une série de dysfonctionnements dans la détection de la radicalisation de Michaël Harpon, exemple à l'appui.
Quand on fait une habilitation, on fait l'environnement et donc on fait la famille, donc on fait le conjoint. L'auteur s'est marié en 2014. Cela n'a pas déclenché un nouveau contrôle. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Je ne sais pas, mais c'est un dysfonctionnement parmi les dysfonctionnements qu'on peut noter au moment où je vous parle.
Interrogé sur la radicalisation au sein des forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur évoque une quarantaine d'individus concernés au sein de la police, des individus suivis par une cellule spécifique, assure le locataire de la place Beauvau, qui précise que pour tous les cas où le risque a été caractérisé de façon suffisante, les agents ont été écartés.
Et hier matin, pendant un hommage aux victimes, le président Emmanuel Macron a appelé à faire bloc face à, je cite, « l'hydre islamiste ». Le message était clair hier soir sur les pancartes des manifestants à Rouen. « Arrêtez de nous enfumer ». Des centaines de personnes ont défilé pour dénoncer ce qu'ils considèrent être des mensonges d'État. Après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol il y a bientôt 2 semaines, les premiers résultats d'analyse sont inquiétants. À Préau, au nord-est de Rouen, les taux de dioxine relevés sous le panache de fumée sont 4 fois plus élevé que la normale. Nous y reviendrons dans le journal de 8h de France Culture. Et si vous deviez payer de votre poche un jour d'arrêt maladie, la Cour des comptes veut accélérer le retour à l'équilibre de la Sécu. Dans un rapport rédigé dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, les sages de la rue Cambon préconisent l'instauration d'un jour de carence d'ordre public dans le secteur privé. Anne-Laure Jumet. 8 milliards d'euros, c'est le montant déboursé en 2017 par la Sécurité sociale pour indemniser les arrêts maladie, un chiffre en constante augmentation, note la Cour des comptes, puisqu'il a progressé de 4,2% par an en moyenne depuis 2013. D'où cette proposition d'instaurer un jour de carence obligatoire qui ne serait compensé ni par l'employeur, ni par les organismes de prévoyance. Pour les sages de la rue Cambon, ça aurait le mérite d'envoyer un signal susceptible de maîtriser la fréquence des arrêts et les arrêts courts, parfois répétés, source, disent-ils, de désorganisation dans l'entreprise. Alors précisons qu'aujourd'hui, il y a 3 jours de carence dans le secteur privé, mais ces derniers sont pris en charge par l'employeur dans environ 2/3 des cas. Le salarié en arrêt maladie n'en ressent donc pas l'impact puisqu'il est indemnisé. A contrario, dans la fonction publique, le jour de carence a été réintroduit l'année dernière sans compensation. On manque encore de recul pour évaluer son impact, mais on dispose d'une précédente étude de l'INSEE sur la période 2012-2014, pendant laquelle ce genre de carence avait déjà été réintroduit. Si les absences pour raison de santé de 2 jours avaient alors fortement diminué, celles d'une semaine à 3 mois avaient au contraire augmenté. De quoi s'interroger sur l'impact d'une telle mesure, d'autant que ce sont les arrêts de longue durée qui sont les plus coûteux pour la sécurité sociale. Ceux de plus de 6 mois représentaient en 2017 près de 45% des dépenses.
Anne-Laure Jumet, vous avez jusqu'au 20 novembre pour donner votre avis sur le futur revenu universel d'activité. Il est censé remplacer plusieurs prestations sociales d'ici 2023. Une consultation citoyenne est lancée aujourd'hui sur le site internet consultation-rua.gouv.fr. Vous devez répondre à plusieurs questions par d'accord, mitigé ou pas d'accord, mais il est aussi possible de formuler de nouvelles propositions. On ne fait pas de réforme sur 37 milliards d'aides sociales sans demander leur avis aux Français, a expliqué la secrétaire d'État en charge du dossier. Des averses de plus en plus fréquentes vont tomber sur une bonne moitié nord de la France avec des rafales de vent de 60 à 70 km/h. Aujourd'hui, par endroits, des orages risquent d'éclater. Près de la Méditerranée, il fera sec mais nuageux. Météo France prévoit ce midi 13 degrés à Boulogne-sur-Mer, 12 à Paris, 15 à Brest, 19 degrés à Hendaye et 22 à Toulon, Guillaume.
Merci beaucoup Margot Delpierre.